quelques ouvrages. Tout d'abord, il y a deux livres que je vous recommande avec quelques réserves, parce que ce ne sont pas des livres évangéliques, mais ce sont des livres quand même qui suscitent la réflexion, qui sont intéressants à voir, que vous avez donc, tous les livres que je vous ai indiqués, je les ai trouvés dans votre bibliothèque. Donc, ce sont des livres en français que vous pouvez utiliser. Alors, il y a « L'éthique de l'Ancien Testament » d'Hendrik van Ooyen, j'écris le nom, hein, « Éthique de l'Ancien Testament », et il y a « L'éthique du Nouveau Testament » de Heinz Dietrich Wendland. Ce sont deux ouvrages qui ont été écrits en allemand, mais qui sont traduits en français, et l'un est une introduction à l'éthique de l'Ancien Testament, le premier, van Ooyen, et l'autre une éthique du Nouveau Testament, celle de Wendland. Bon, je crois que si l'on veut avoir un certain nombre de connaissances dans le domaine des recherches éthiques aujourd'hui, en exégèse, ça peut être utile de lire ces deux livres. Enfin, je vous signale et je vous rappelle qu'on ne peut pas dire que ce sont des livres évangéliques. Ensuite, il y a un petit livre qui n'est pas gros, qui s'appelle « Essai sur la fidélité » de Roger Mehl. Roger Mehl, qui était professeur et doyen de la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Alors, Roger Mehl, « Essai sur la fidélité ». Ensuite, je vous signale un livre en français intéressant. C'est un commentaire du Décalogue de Édouard Hamel, intitulé « Les dix paroles ».« Les dix paroles ». C'est un petit livre de 169 pages. Et qui vaut la peine de lire. Et je vous recommande aussi, mais il n'y a pas de nom d'auteur, c'est un petit livre qui a été publié pendant la guerre et qui s'est diffusé en France et à partir de la France qui s'est diffusé dans les camps de prisonniers en Allemagne. Et donc c'est un livre qui a eu un grand effet sur beaucoup de prisonniers, il y en a qui se sont même convertis. C'est un livre qui s'appelle « L'ordre de Dieu ». L'ordre de Dieu, il n'y a pas de nom d'auteur, donc l'ordre de Dieu, parce qu'il y a un bon nombre d'auteurs, il y a plusieurs auteurs, et c'est la vie chrétienne selon le décalogue. Le titre, c'est l'ordre de Dieu, et le sous-titre, c'est la vie chrétienne selon le décalogue. 188 pages. Je vous indique aussi, c'est un livre intéressant, alors mais en anglais, je vous indique deux livres en anglais. Il y en a un qui est le Baker's. Baker's Dictionary of Christian Ethics. C'est un gros volume avec un grand nombre de théologiens évangéliques. C'est un livre très évangélique. C'est un gros dictionnaire, hein. Dictionnaire d'éthique chrétienne. Alors vous l'avez là, dans votre bibliothèque. Et puis alors l'autre livre qui vaut la peine, c'est sur le décalogue. C'est en anglais de R.H. Charles. Ça s'écrit Charles en anglais, on doit prononcer Charles, non ?
Charles.
Charles. Alors, ça s'écrit Charles, comme le prénom Charles en français. Hein. Alors, vous pouvez aussi le lire, et ça, c'est un livre nettement évangélique. Hein. Bon, qu'est-ce que je peux encore vous indiquer ? Alors, si, il y a un livre, deux livres sur le sermon sur la montagne. Oui ?
Le titre du livre de Charles, c'est quoi ?
Le livre de Charles, c'est le Décalogue, The Décalogue. Ce décalogue, 296 pages. Ensuite, je vous indique deux livres sur le sermon sur la montagne, mais donc en rapport avec l'éthique chrétienne. Un livre traduit de l'allemand, de Joachim Jeremias, qui s'appelle « Parole de Jésus ». C'est un commentaire du sermon sur la montagne, « Parole de Jésus », de Joachim Jeremias, où j'ai mis le nom au tableau. Et puis un autre d'un théologien suisse-allemand, qui a été écrit en allemand, mais qui a été traduit en français, de Edouard Thurneisen, Le Sermon sur la montagne. Intitulé Le Sermon sur la montagne. Bon, en plus, je vous ai marqué ici Ictus, parce que, pour ça, les deux livres que je vais vous indiquer, si jamais vous pouvez peut-être déjà les voir avant mon cours de la semaine prochaine, enfin, il n'y aura que deux ou trois d'entre vous qui pourront le faire, probablement, il y a un livre de... Un article dans Ictus, c'est plutôt un numéro spécial d'Ictus, intitulé « Parole de Dieu et pouvoir ».« Parole de Dieu et pouvoir ». Je ne sais pas, mais le numéro est à part. Madame Thompson l'a mis à part. Et donc, si vous lui demandez parole de Dieu et pouvoir, sans avoir l'année ni le numéro, vous pouvez tout de suite l'avoir. Elle a mis tous ses livres de côté pour qu'on les trouve sans difficulté. Et alors, de Jean-Jacques von Almen, qui était professeur de théologie à la faculté de Neuchâtel, en Suisse, il y a « Mari et femme d'après saint Paul ».« Mari et femme d'après saint Paul ». Alors, c'est une étude, au fond, sur tout ce que l'apôtre Paul enseigne au sujet du couple. Et alors, tous les livres que je vous ai indiqués, à l'exception du décalogue de Charles et du Baker's Dictionary of Christian Ethics, tous les autres sont en français. Hein. Donc, Jean-Jacques von Almen, je l'ai écrit là. Gigi von Almen.
Est-ce que vous le recommandez, celui-là ?
Ah, tout à fait. Ah oui, il est très, très intéressant, très solide. Je le recommande sans peine. D'ailleurs, ceux qui suivent mon cours verra que sur certains points, je m'en suis inspiré. Alors, le sermon sur la montagne, j'indique ces commentaires sur le sermon sur la montagne parce que le sermon sur la montagne est aussi une description de la vie chrétienne, donc ça vaut la peine de le lire au point de vue éthique. Hein. Edouard Ternesen. Comment ? Je n'ai pas donné le titre du livre. Sermon sur la montagne, madame. Le sermon sur la montagne. Voilà, alors écoutez, je sais que d'aucuns parmi vous, et je les comprends très bien, ont quelquefois au cours de mon exposé une question qui leur vient à l'esprit. Il y a une chose très simple que nous faisions à Aix, c'est que les étudiants mettaient une petite croix rouge dans la marge, ou une petite croix noire si vous n'avez pas de machin rouge, si bien qu'ils pouvaient ensuite retrouver sur quel point ils ont une question à poser. Alors, même s'il y a quelque chose que vous ne saisissez pas, vous mettez une petite croix en marge, et comme ça, après, à la fin du cours, quand je viens le quart d'heure pour les questions, puisque c'est ainsi que je procède, vous pouvez poser vos questions. Hein. Alors, n'hésitez pas, vous notez la petite croix. Si vous avez peur d'oublier la question, notez-la aussi sur un petit bout de papier. Mais je m'efforcerai, quand je le pourrai, bien sûr, c'est pas dit que je le pourrai toujours, je m'efforcerai de répondre à votre question. Nous abordons la cinquième parole. La cinquième parole se trouve en Exode 20-12 et en Deutéronome 5-16. Et par rapport au texte de l'Exode, le texte du Deutéronome ajoute deux choses. Voilà, je vais vous lire le texte de l'Exode en vous disant quels sont les ajouts du texte du Deutéronome. Honore ton père et ta mère, là le Deutéronome ajoute, comme le Seigneur ton Dieu te l'a commandé, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés, et là le Deutéronome ajoute, et que tu sois heureux, sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Donc, si vous voulez, voilà le texte de l'Exode, honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Et le texte de Deutéronome, « Honore ton père et ta mère comme le Seigneur ton Dieu te l'a commandé, afin que tes jours soient prolongés et que tu sois heureux sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. » Donc le texte est le même, mais dans le Deutéronome, il y a deux additions. Nous avons à considérer tout d'abord que ce n'est pas une parole adressée d'abord aux enfants. Au fond, aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, lorsqu'il s'agit des enfants, la manière d'honorer leurs parents qui leur est demandée, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Il suffit que vous vous reportiez au premier chapitre du livre des Proverbes, et il suffit que vous vous reportiez à Éphésiens 6.1 et à Colossiens 3.20, je répète, Éphésiens 6.1 et Colossiens 3.20, pour que vous en soyez persuadés. La manière dont les enfants doivent honorer leurs parents, c'est l'obéissance. Et donc les parents ont un devoir d'autorité vis-à-vis de leurs enfants. Les enfants doivent honorer leur père et mère en leur obéissant. Mais, je le répète, la cinquième parole du Décalogue ne s'adresse pas en priorité aux enfants. D'abord, comme toutes les paroles du Décalogue, elle s'adresse à Israël. Israël doit honorer ses pères et mères. C'est-à-dire que Israël doit, tout au long de son existence, se souvenir avec respect des anciens, des patriarches, des pères du début de l'histoire d'Israël. Et le peuple d'Israël devra rester le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais pas seulement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, puisque bien sûr, après Abraham, Isaac et Jacob, il y a eu d'autres pères pour Israël. Donc, c'est un commandement, écoute Israël, je suis le Seigneur ton Dieu, honore tes pères et mères. Et puis, cela s'adresse aussi aux adultes dans le peuple. Je veux dire que il ne s'agit pas pour un adulte d'obéir à ses parents, mais il s'agit pour un adulte d'honorer ses parents. En fait, d'ailleurs, notre traduction « honorer » est bonne, mais c'est intéressant de voir quelle est l'étymologie du verbe traduit par « honorer ». C'est le verbe « kavad ». Kavad. En hébreu, « kavad », c'est un mot qui vient d'une racine signifiant « lourd », qui a du poids. On pourrait, au fond, traduire, mais c'est une mauvaise façon de traduire parce que c'est beaucoup trop long, mais c'est pour vous exprimer le sens. Donne du poids à ce qu'on fait ou on dit ton père et ta mère. Donne du poids à ce que font ou disent ton père et ta mère. Autrement dit, que ce que font et disent ton père et ta mère est pour toi du poids. Donc, à l'origine, le verbe « kavad » contient cette idée de poids. De poids. Et le verbe « honorer » vient ensuite de ça. Honorer son père et sa mère, c'est tenir compte de ce que font et disent et de ce qu'on fait et on dit le père et la mère. C'est ça, honorer. Il ne s'agit pas d'honorer au sens d'une espèce de culte des ancêtres. Hein. Il ne s'agit pas du tout de les honorer en leur rendant un culte quelconque. Il s'agit de les honorer en donnant du poids à ce qu'ils ont pu dire et faire. Et nous trouvons dans la Torah un certain nombre de textes qui vont dans ce sens. Je n'en citerai qu'un. Lévitique 19:32, lève-toi devant les cheveux blancs et honore la personne du vieillard. Hein? C'est le texte du Lévitique, lève-toi devant les cheveux blancs et honore la personne du vieillard. Lévitique 19:32. Mais ce qui est intéressant, c'est que on trouve le même mouvement de sens dans le Nouveau Testament. Par exemple, Paul n'hésite pas, lorsqu'il écrit à Philémon, à lui dire, c'est au verset 9, « Je t'adresse une prière étant ce que je suis, Paul vieillard. » Autrement dit, lorsqu'il s'adresse à Philémon, Paul n'hésite pas à mettre dans la balance le poids de son âge. Philémon est un jeuneau, Paul est un ancien, et au fond, Paul, vieillard, n'hésite pas à dire au jeune Philémon, « Je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, vieillard. » Donc, en Israël, on avait ce sens, qui est, vous le savez, grandement perdu dans pas mal de pays aujourd'hui, le respect des cheveux blancs, et le respect des anciens. Et je pense, si vous voulez, que la parole de Dieu, tout entière, tant Ancien que Nouveau Testament, va dans ce sens. C'est pour ça, d'ailleurs, que ceux qui vont gouverner l'Église, ce seront les presbytéroi, les anciens. Anciens n'étant pas entendus au sens de vieillards, il pouvait y avoir, si j'ose dire, de jeunes anciens, mais on les appelait anciens parce que le fait d'être ancien ou d'être nommé ancien ou d'être désigné comme ancien donnait du poids, de l'autorité, parce que en Israël, l'ancien était cela. D'ailleurs, remarquez, Dieu a tellement écrit l'œuvre de sa loi dans le cœur des hommes que l'on retrouve ce respect des anciens bien en dehors de l'Écriture sainte et dans des pays extrêmement différents. Vous avez, dans beaucoup de pays d'Afrique, on honore les anciens. En Chine, on honorait les pères et mères. Et il y a eu la révolution maoïste, à ce moment-là, tout a un peu relâché. Or, tous les témoignages que nous recevons maintenant de Chine montrent qu'à nouveau, maintenant, on recommence à considérer les pères et mères en les honorant. Donc, si vous voulez, voilà quelque chose qui est de la loi de Dieu. Et Dieu a imprimé dans le cœur des hommes l'œuvre de sa loi, si bien que, même en dehors de ceux qui connaissent la révélation écrite de Dieu, qui connaissent la parole écrite de Dieu, la parole de Dieu, quand même, a une certaine répercussion, a une certaine portée, et dans bien des pays, on a gardé le respect du vieillard, le respect de l'ancien, les pères et mères sont honorés. Et c'est lié à la durée d'un peuple ou à la durée d'une famille. Car la parole de Dieu dit « Afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. » Une famille est proche de sa fin, une nation, un peuple sont proches de leur fin, dès lors que le respect des pères et mères a disparu. Et dès lors que ce qu'on fait ou ce qu'on dit, les pères et mères n'a plus de poids. Et je dirais, il y a donc une réalité là, à savoir que lorsque le père et mère sont honorés, au sens où la parole de Dieu le demande, alors il y a une prolongation, non pas tellement de la vie personnelle des gens, mais de la prolongation du peuple ou de la prolongation de la famille. Par exemple, si vous voulez, cette parole s'adresse d'abord à Israël, je l'ai dit. Écoute Israël, honore tes pères et mères, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Et donc il y aura prolongation de l'histoire d'Israël tant qu'Israël connaîtra. Et je pense, vous allez dire vraiment que j'ai des... comment dire, que je repense toujours aux mêmes choses. Mais si vous voulez, une des raisons qui, à mes yeux, fait qu'en dépit de toutes les persécutions, en dépit de la dispersion, en dépit de tout ce qui a été fait aux Juifs, les Juifs subsistent comme peuple, même disséminé dans le monde, parce que dans le judaïsme, même dans le judaïsme qui a refusé le Christ, donc dans le judaïsme apostat, d'une certaine manière, on continue à honorer père et mère. Alors, le peuple juif, mystérieusement, bien que dans la diaspora, bien que dans la dispersion, bien que persécuté, bien que massacré à certaines époques, comme par exemple au moment de l'Holocauste, au moment de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, le peuple juif... chose. Mais, évidemment, se pose la question, et où est la terre du peuple juif? Alors, on a la renaissance, donc, de l'existence d'Israël sur sa terre, mais ceci est une autre histoire dans laquelle je ne me lancerai pas aujourd'hui. Donc, il faut bien voir que cette parole, cette cinquième parole, comporte une promesse. Il y aura une prolongation, c'est une famille, comme ça, où les pères et mères sont honorés, c'est une famille qui va traverser les générations. C'est une famille qui voilà. Et au fond, au contraire, une famille où les pères et mères ne sont pas honorés, c'est une famille qui s'éteint. Mais il y a une notation du Deutéronome que nous devons garder, que nous devons conserver, un ajout. et que tu sois heureux, afin que tes jours soient prolongés et que tu sois heureux sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Là, je puis presque vous parler d'expérience. Si vous voulez, du fait que j'ai eu moi-même 5 enfants, que plusieurs de mes enfants sont mariés, la plupart de mes enfants sont mariés, j'ai 8 petits-enfants, eh bien, je suis frappé de voir combien le lien entre les générations, constitué en partie par le fait que les enfants honorent leurs parents, constitue pour les enfants eux-mêmes une joie. Ils sont heureux. Les enfants sont heureux. Lorsqu'ils honorent leur père et mère, il y a un climat qu'ils contribuent à créer et qui fait qu'ils sont eux-mêmes heureux. Et c'est vrai aussi, non pas seulement pour la génération des enfants, mais pour la génération des petits-enfants. Et je sais que quand nous pouvons nous réunir tous avec mes enfants et avec nos enfants, ma femme et moi et nos petits-enfants, nous sommes frappés toujours de voir l'espèce de respect que nos enfants et aussi nos petits-enfants ont pour nous, ont pour leurs parents. Et en même temps, ils sont heureux. Il y a une espèce de joie. Et donc, je peux rendre ce témoignage que j'ai pu vérifier dans ma propre vie. Je ne peux pas tout, mais c'est la même chose vis-à-vis de mes pères et mères et de mes grands-parents. Autrement dit, si vous voulez, il n'y a pas de doute qu'il y a une joie particulière, une joie spéciale, un bonheur spécial, dès lors que les enfants honorent leurs pères et mères. Maintenant, il faut bien voir que, non seulement dans la Torah, mais dans d'autres livres de la Bible, nous trouvons un enseignement à ce sujet. Et le livre dont je vous recommande la lecture à cet égard, et qui vaut la peine de commenter, et peut-être dans une réunion de parents, ou d'une réunion de paroisse aussi, même, vous pouvez faire, ce sont les 5 premiers chapitres des Proverbes. Ça a été étonnant, une expérience très étonnante que j'ai pu faire, c'est que, j'ai fait, il y a maintenant bien une 15aine d'années, j'ai fait une suite d'études bibliques sur les premiers chapitres des Proverbes. C'est très bon, vous savez, de prendre avec la paroisse ou dans la prédication, son étude biblique, tout un livre de la Bible ou un long passage de la Bible, quelque chose qui se tient, comme le sermon sur la montagne, comme le décalogue. Eh bien, j'ai fait cette expérience avec les 5 premiers chapitres des Proverbes. Et ce sont des chapitres, je dirais, qui, surtout à notre époque, sont pleins de sens et de portée pour le rapport entre les parents et les enfants, sur l'éducation des enfants, en relation aussi avec l'enseignement. Donc, vous pouvez lire ces 5 premiers chapitres des Proverbes pour compléter ce que je pouvais dire. Mais je vous cite qu'un passage, c'est Proverbes 4, verset 10. « Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, ainsi les années de ta vie seront nombreuses. » Donc, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, prolongation d'un peuple, prolongation de la vie d'une famille, mais aussi, souvent c'est une bénédiction, là où le père et la mère sont honorés, il y a pour tel individu, pour telle personne, prolongation de sa vie. Voilà, c'est un peu entendre les choses, ce que j'ai fait jusqu'à présent, à ce que j'appelle un premier niveau. En premier niveau, mais qui est un niveau fondamental, qui est un niveau même, que je dirais, essentiel. Et alors, si vous voulez bien, nous allons passer de ce premier niveau à un niveau qui élargit peut-être le sens du texte. Alors, ah oui, j'ai oublié de vous indiquer, vous avez un rappel de ce commandement au début du chapitre 19, du Lévitique. Alors notez-le, c'est les versets 1 à 3 du Lévitique, je vous les lis rapidement. « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à toute la communauté d'Israël, tu leur diras, vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu, chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats, je suis le Seigneur votre Dieu. » Bon, c'est un petit oubli. Alors donc maintenant, deuxième niveau. Deuxième niveau. Si au premier niveau, il s'agit essentiellement du rapport parent-enfant, dans un autre niveau, cela nous pose toute la question de ce qu'on peut appeler, d'une part, la mémoire, et d'autre part, l'héritage. La mémoire. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté, je m'adresse surtout à ceux d'entre vous qui sont pères de famille, mais c'est curieux de voir combien de jeunes enfants s'intéressent au passé de leurs propres parents et au passé de leur propre famille. Si vous voulez, on sent que l'enfant a besoin de se voir héritier, et il ne peut se voir héritier que dans la mesure où une certaine mémoire va être conservée. Je vous signalais hier le livre de Pierre Chaunu intitulé « Mémoire de l'éternité », mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces livres, Chaunu insiste beaucoup sur ce rôle de la mémoire. L'enfant a besoin d'inscrire dans sa mémoire, c'est-à-dire d'inscrire en lui-même, les faits et gestes, non seulement de ses parents, mais de ses grands-parents, et même quelquefois au-delà. En France, en ce moment, je ne sais pas si au Canada c'est comme ça, mais en France, il y a une sorte de frénésie parmi les jeunes, parmi beaucoup de jeunes, justement, qui sont peut-être un peu désorientés dans le climat actuel, la recherche des généalogies. On cherche la généalogie, et même il y a des jeunes gens qui vont consulter les registres dans les mairies, les registres pour savoir, ils veulent savoir au fond, ils veulent nourrir leur mémoire et en quelque sorte retrouver leur héritage. Non pas, je ne parle pas d'héritage ici en un sens matériel, mais je parle d'héritage en un autre sens. Nous naissons tous nus, c'est d'ailleurs l'écriture qui nous le rappelle. Nous naissons nus et nous mourrons, nous serons enterrés nus finalement. Mais cela ne veut pas dire que nous naissions sans être héritiers. Nous naissons nus, mais nous naissons héritiers. C'est-à-dire que nous ne naissons pas dans du vide, nous ne naissons pas sur une table rase. Et il y a un même mouvement qui nous fait chercher à nourrir notre mémoire et à prendre conscience de notre héritage. D'ailleurs, en fait, cela se traduit à travers tout l'enseignement, déjà, que nous pouvons recevoir à l'école. Et alors, on a des surprises. Il y a quelques années, en France, par exemple, on avait fait plus ou moins disparaître des écoles primaires, et même des écoles secondaires, en bonne partie, l'enseignement de l'histoire. L'histoire. On considérait à quoi bon avoir passé des heures à l'école pour apprendre l'histoire, soit l'histoire de la France, soit l'histoire de l'Europe, soit l'histoire du monde. Pourquoi passer et si bien que l'histoire était devenue une discipline négligée. Et alors, de même qu'aujourd'hui, déboussolés, beaucoup de jeunes essayent à retrouver leur généalogie. De même, à nouveau, on s'est aperçu qu'il y avait comme un besoin, une nécessité d'enseigner à nouveau l'histoire. Et alors, depuis quelques mois, c'est tout récent, ça. Depuis quelques mois, à nouveau, ça va mettre en application à la rentrée d'octobre prochain, puisqu'en France, les écoles reprennent... au mois de septembre prochain, puisque les écoles primaires et secondaires recommencent en France au mois de septembre. Eh bien, parce qu'on s'est aperçu que c'était très grave, de ne plus nourrir la mémoire et de ne plus transmettre l'héritage. Et on s'aperçoit que c'est important. Et l'Écriture sainte est remplie, je vous l'ai déjà dit hier, du verbe « se souvenir », mais à nouveau, le Nouveau Testament, sans arrêt, nous dit, sous des formes différentes, attention, tout ce qui est raconté avant dans l'Ancien Testament, c'est important pour nous. Ces choses-là ne nous sont pas racontées en l'air. Ces choses-là, nous devons nous en nourrir. Il y a là aussi des exemples pour nous. Il y a un enseignement que nous devons recevoir. Et c'est pourquoi la tentative de Marcion, qui consistait à supprimer de la Bible l'Ancien Testament, avait amené Marcion petit à petit à supprimer la plupart des livres du Nouveau Testament, parce que finalement, l'on ne peut comprendre le Nouveau Testament qu'en recevant la mémoire et l'héritage de l'Ancien Testament. Et c'est une manière aussi d'honorer son père et sa mère. Donc, il y a pour nous quelque chose de capital dans la tradition du passé et la vie d'une lignée, d'un groupe social, tient à l'honneur dans lequel sont tenus les pères et mères, les anciens. Alors, j'attire votre attention là-dessus, c'est valable pour votre vie de famille, c'est valable pour votre vie d'église, et en partie, n'est-ce pas, malheur à la rupture, malheur à la table rase, on ne s'en remet pas. On ne s'en remet pas. Et c'est nécessaire et indispensable d'avoir cela. Il se trouve que l'église dont j'ai été pasteur 23 ans à Paris avait été établie en 1881 à Paris. Eh bien, ça a été très intéressant. Le pasteur actuel, c'est un pasteur qui m'a donc succédé, a publié un petit livre qui s'appelle « La traversée d'un siècle » et qui raconte toute l'histoire de notre église, qui s'appelle l'église de l'Annonciation, parce qu'elle a été bâtie dans une rue qui s'appelait la rue de l'Annonciation, et comme le mot « Annonciation » fait allusion à l'Annonciation à Marie de la naissance du Sauveur, alors ça s'appelle l'église de l'Annonciation, parce que quelquefois, nos églises en France, nos églises réformées en France, portent un nom comme ça, hein, portent un nom, ça n'est pas un nom, je dirais, ayant un sens biblique, on dit église de l'Annonciation, il y a même une église réformée à Paris qui s'appelle église Sainte-Marie, donc vous voyez, on a des noms qui sont là pour rappeler un événement ou pour rappeler un personnage de l'Écriture sainte. Eh bien, et pourquoi pas Marie, puisque tous les siècles, toutes les générations l'appelleront bienheureuse. Ce qui ne veut pas dire pour ça qu'on va rendre un culte à Marie. D'ailleurs, Marie n'aurait pas du tout aimé qu'on lui rende un culte, elle qui disait « Je suis la servante du Seigneur ». Mais, vous voyez, c'était incroyable. Ce petit livre a été publié, et voilà que tous les paroissiens, bien sûr, actuellement vivants, ont voulu avoir le livre. Mais des paroissiens qui avaient quitté cette église, parce qu'ils avaient déménagé, qui sont allés en France, quand ils ont su qu'il y avait ce livre sur l'histoire de l'église dont ils avaient été membres, même ceux qui n'en étaient donc plus membres, ils ont voulu ça. Et c'est normal. C'est normal. Évidemment, je pense que vos églises, là, ici, sont des églises toutes récentes. Je crois que l'église qui est ici existe depuis... Hein ?
7 ans.
Depuis 7 ans. Bon, mais... croyez-moi, c'est important de garder la mémoire, et c'est pour ça que c'est très important que les registres d'une église soient tenus avec attention. Là, je deviens, pendant une courte parenthèse, le professeur de théologie pratique. On ne doit pas mépriser la bonne tenue des registres. Et quand je parle de registres, je ne parle pas seulement du registre des comptes d'une église. Non, 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 je veux dire les registres dans lesquels sont enregistrés tous les événements de la vie d'une église. Parce qu'il ne faut pas qu'on en perde la mémoire, et puis ça peut servir ensuite à une génération future. Donc, vous voyez, il faut veiller à cela. Ça ne veut pas dire, je m'empresse de le dire, qu'il faille bloquer, surtout pas bloquer une église dans son passé. Il y a des églises qui peuvent, je dirais, se figer parce que la mémoire et l'héritage devient la chose unique qu'ils considèrent. Non, non, non. Une église doit avancer, doit progresser. Et donc, il faut avoir l'honneur des anciens, l'honneur des pères et mères, mais il ne faut pas tomber pour cela dans l'immobilisme. Et c'est pour ça que je veux joindre sur ce point à la cinquième parole du décalogue, une parole qui se trouve au chapitre 2 de la Genèse, et concernant le mariage, Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère. C'est une. Je disais hier à l'un d'entre vous, il faut toujours faire attention avec l'Écriture sainte, surtout quand on prêche. Il ne faut pas que nous prêchions une parole de l'Écriture de telle façon qu'elle serait en contradiction avec, en réelle contradiction avec une autre parole de l'Écriture. Et quand nous prêchons une parole de l'Écriture, il faut même examiner, c'est ça l'utilité d'avoir. De bons commentaires, de faire une bonne exégèse et d'avoir suivi une bonne dogmatique. Si vous voulez, quand vous prêchez, par exemple, sur la responsabilité de l'homme, il ne faut pas le faire au détriment de la souveraineté de Dieu. Et lorsque vous prêchez sur la souveraineté de Dieu, il ne faut pas le faire au détriment de la responsabilité de l'homme. Dieu, dans sa souveraineté, prédestine toute chose. C'est l'enseignement de l'Écriture. Mais il ne faut pas croire que la prédestination supprime la responsabilité. Et donc, il faut faire attention. Alors là, si jamais vous prêchez sur « Honore ton père et ta mère », si l'on ne voyait que ça, on risquerait de tomber dans une sorte de traditionnalisme qui deviendrait de l'immobilisme. Il faut aussi se souvenir, même si on ne prêche pas en même temps sur cette autre parole, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils ne seront plus deux, mais un. Hein? Et Jésus ajoute que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Donc, il faut faire attention à ça. Et c'est d'ailleurs ce qui explique historiquement bien des choses de l'histoire de Chine. L'histoire de Chine. Mes parents ont longtemps habité en Chine. Je suis moi-même allé en Chine plusieurs fois. Et ce qui est frappant, c'est que avant le maoïsme, c'était avant la guerre, donc vous voyez, c'est vieux. Et il faut voir que la Chine était arrivée à l'immobilisme. On peut dire que la Chine, en 1930, était exactement comme la Chine en 1530. Bob, aucun changement. Pourquoi ? Parce qu'on honorait les anciens, on honorait les pères et mères, mais finalement on était figé, on était immobilisé, parce qu'on ne voyait que la tradition des anciens. Pas au mauvais sens où Jésus s'en prend à la tradition des anciens, mais je veux dire, on ne voyait plus que les anciens. Tandis que la Bible nous dit d'honorer les anciens, d'honorer père et mère, mais en même temps, elle dit l'homme quittera son père et sa mère. En Chine, on pouvait habiter, et on devait même habiter souvent dans la même maison, avec 3, 4, et quelquefois même, c'était plus rare, 5 générations. Et donc, comme c'était l'honorer les anciens, finalement, il y avait un immobilisme de la civilisation chinoise, un blocage de la civilisation chinoise. La Chine a été bloquée par son histoire, parce qu'elle n'insistait que sur l'honore ton père et ta mère. Et, tandis que la Bible n'a pas du tout cette position. La Bible nous dit honore ton père et ta mère, mais elle dit aussi l'homme quittera son père et sa mère. Oui, et c'est pour ça, si vous voulez d'ailleurs bien vous rendre compte de la Chine, vous avez des ouvrages qui ont été traduits en français, mais si vous pouvez les lire en anglais, ce sera encore mieux, c'est les ouvrages de Perlbeck. Je pense que vous avez déjà lu des ouvrages de Perlbeck. Voilà, les romans de Perlbeck. Il faut dire que Perlbeck était une fille de missionnaire. Elle-même, je dirais malheureusement, par rapport à la foi chrétienne, elle avait bien dévié. Mais Perlbeck est un excellent écrivain. Et d'autre part, elle a fait plusieurs romans. Il y en a un en particulier, il y en a un qui est peut-être fondamental, qu'il faut lire. Ça s'appelle La Terre chinoise. En tout cas, dans la traduction française, ça s'appelle La Terre chinoise. Je pense qu'en anglais, c'est la même chose. Et c'est très intéressant parce qu'elle a vécu en Chine. Elle connaît le chinois et elle connaît les Chinois. Elle a connu l'ancienne Chine, je veux dire la Chine d'avant la Révolution. Et vous verrez, avec quelquefois, on a une grande admiration pour le respect pour les pères et mères dans la civilisation chinoise. Et puis à d'autres moments, on est tout à coup saisi par cette espèce d'immobilisme du fait qu'on met uniquement l'accent sur cette vertu-là, sur que réclame Dieu, et il a inscrit ça, j'allais dire, l'œuvre de cette loi dans le cœur des Chinois. Mais malheureusement, on ne voit pas le reste, ce qui doit non pas contrebalancer, mais compléter ce point de vue. Disons que le conservatisme est affreux, de même qu'une espèce de perpétuelle contestation. Vous savez, il y a des gens pour qui tout ce qui est ancien, c'est bien. Il n'y a de bien que ce qui est ancien. Il y a des gens pour qui tout ce qui est nouveau est bien. Ils voient que ce qui est nouveau. Tandis que l'Écriture nous apprend à être comme ce scribe qui tire de son trésor des choses anciennes et des choses nouvelles. Et dans l'Église, il faut avoir le souci de la vraie et solide tradition, mais en même temps, il faut avoir le souci d'innovation. Le souci de nouveauté. Nous devons être, nous, en tout cas les pasteurs, comme le bon scribe qui tire de son trésor des choses anciennes venant des pères, mais aussi qui sait trouver et découvrir des choses nouvelles. Hein? C'est ça. Disons, et là je rejoins Maillot, je vous ai indiqué, là, j'ai vu le livre de Maillot, là, je vous ai recommandé ce petit livre de Maillot, d'Alphonse Maillot, et alors Maillot, dans son commentaire, vous verrez ça dans ce petit livre, dit que ce commandement signifie aussi que si le père et la mère se déshonorent, hein, s'ils nient dans les faits ou dans leur attitude ce que bien haut ils ont proclamé, alors il faut, alors je cite Maillot, honore-les au point de les aider à retrouver leur honneur, au point de leur résister quand ils bafouent ce qu'ils proclament. Accorde-leur cet honneur de les prendre assez au sérieux pour leur dire non, au nom justement de l'unique Seigneur qui t'a demandé de les honorer. Hein? Moi, je trouve que c'est très beau, cette parole de Maillot, parce qu'elle nous montre qu'honorer le père et la mère, ça ne consiste pas à dire amen à tout ce qu'on dit ou fait, ou à tout ce qu'ils disent et font le père et la mère. Il nous faut accorder du poids à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font, mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours suivre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Hein? Donc, vous voyez, nous nous trouvons là devant quelque chose qui va plus loin que ce qu'on pourrait voir au premier niveau dont j'ai parlé tout à l'heure. Et je continuerai par un petit alinéa complémentaire au sujet de l'Église. L'Église est souvent traité comme une famille dans la Sainte Écriture. Par exemple, dans 1 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 15, je vérifie si je ne me suis pas trompé, « Quand vous auriez 10 000 précepteurs en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, dit saint Paul, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Christ par l'Évangile. » Et d'ailleurs, dans Philémon, Paul, vous le savez, se présente, j'ai parlé de ce verset tout à l'heure, comme un père ayant engendré aussi. Calvin, lui, écrit dans l'Institution chrétienne que l'Église est la mère des fidèles. Sainte Église universelle, c'est-à-dire pour l'ensemble des chrétiens, quelle que soit par ailleurs leur dénomination, et je dirais tout au long de l'histoire. Et même en comprenant, je dirais, tous ceux qui ont porté le nom de chrétiens, même si nous leur trouvons, découvrons des choses peu honorables. Mon cher ami Jules-Marcel Nicole a écrit son précis de l'histoire de l'Église, il comprend dans son histoire de l'Église absolument tous les chrétiens depuis les temps apostoliques jusqu'à nous. Bon. Eh bien, il y a, vous le savez, parmi les docteurs de l'Église, ceux qu'on appelle les pères de l'Église. D'ailleurs, il existe en anglais, publié aux États-Unis, une collection des œuvres des pères de l'Église. Et c'est Comment?
Apostolic Father.
Oh oui, mais il n'y a pas seulement Apostolic Father, c'est parmi les premiers volumes, mais vous avez toute la suite. Hein. Vous avez tous les pères de l'Église qui sont dans cette collection. C'est une véritable petite bibliothèque. C'est très difficile de posséder ça soi-même. Moi, petit à petit, au long des années, en français, il existe une collection, mais alors qui est publiée par des catholiques. Enfin, que ce soit publiée par des protestants ou publiée par des catholiques, ce sont toujours les mêmes œuvres. Une collection qui s'appelle Sources chrétiennes, et j'avais non pas tous les volumes de cette collection, mais j'avais en tout cas les principaux volumes. Et ça fait partie, dans l'Église, d'honorer ses pères et mères que d'avoir d'accorder du poids à l'enseignement des grands docteurs du passé. Quand je pense aux grands docteurs du passé, je vous en cite quelques-uns, mais je crois par exemple qu'il faut connaître un certain nombre de pères grecs, comme par exemple les œuvres de Jean Chrysostome. Il faut connaître des pères occidentaux, comme par exemple Saint-Augustin. Saint-Augustin, en tout cas, j'espère que vous avez tous déjà, ou que vous vous procurez les confessions de Saint-Augustin, qui sont une biographie de Saint-Augustin, écrite par lui-même, et qui est une œuvre importante. Mais il y a une œuvre très importante d'Augustin, c'est l'ouvrage, en plusieurs volumes d'ailleurs, deux ou trois volumes selon les éditions, qui s'appelle « La cité de Dieu ». Ça vaut la peine de savoir pourquoi Augustin a écrit « La cité de Dieu ». En 413, s'est produit un événement qui a eu un retentissement terrible tout autour de la Méditerranée. Ça a été la prise de Rome par Alaric. Alaric était un roi, un chef barbare, et il s'est emparé de Rome. Vous savez, la prise de Rome par Alaric, ça a été un coup. Et alors, il y a des chrétiens qui ont vu là, parce qu'il y a toujours des chrétiens pour voir les signes de la fin du monde dans tout ce qui se passe, pour dire, ça y est, c'est la fin du monde, c'est fini, l'histoire est terminée, maintenant que Rome est prise, c'est la fin de tout, et qui ont désespéré, et qui, au lieu de s'occuper de leur vie chrétienne et de leur évangélisation, se sont mis à se lamenter, et finalement, en se lamentant, du même coup, à se croiser les bras. Et alors, Augustin a écrit « La cité de Dieu », donc après l'année 413, afin de ranimer l'ardeur au combat et l'ardeur au témoignage de l'Église. Et il a écrit la cité de Dieu parce qu'il y avait deux cités qui se combattaient. Alors, si vous voulez, c'est le grand thème biblique, la lutte entre Jérusalem et Babylone, avec son origine déjà dans la Genèse, au moment où Babylone, c'est Babel encore. Alors, si vous voulez, c'est le même nom, d'ailleurs, Babel, Babylone, c'est pas, et Jérusalem, vous l'avez aussi dans la Genèse, puisque vous avez le récit avec le roi de Salem. Salem, c'est l'origine de Jérusalem, n'est-ce pas? Donc, vous avez, dès la Genèse, le conflit entre la cité de Dieu et la cité terrestre. C'est-à-dire la cité de ce monde, au sens non pas du monde comme création, mais du monde comme Léon ou l'âge ou l'ensemble de la révolte contre Dieu. Alors, tout au long de la Bible, on voit ce conflit. Et alors, dans l'Apocalypse, ça se termine, c'est la ruine, la chute, la destruction de Babylone, et c'est Jérusalem, la cité sainte, qui l'emporte. Donc, si vous voulez, on pourrait décrire la Bible déjà comme une histoire du conflit entre Jérusalem et Babylone. Ça commence dès la Genèse et ça finit à l'Apocalypse, et ça se comprend puisque dès la Genèse, au chapitre 3, il était dit que la postérité, la descendance de la femme, écraserait la postérité, la descendance du serpent. Ben, si vous voulez, c'est la même lutte, c'est le même conflit. Donc la cité de Dieu ranime le courage des chrétiens pour qu'ils luttent pour leur sanctification au point de vue personnel, et qui luttent pour la conquête du monde à Jésus-Christ par l'évangélisation. Au fond, Saint Augustin dit, qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires de fin du monde? On n'a pas à s'occuper de la fin du monde, elle arrivera quand Dieu voudra, nul ne sait d'ailleurs quand ça viendra. Nous ne sommes pas, nous ne devons pas être braqués sur l'idée du moment où le Christ reviendra, mais nous devons, tant qu'il n'est pas revenu, poursuivre notre progrès dans la sanctification et dans la christianisation du monde. Voilà le thème, au fond, de la cité de Dieu. Donc, voilà deux exemples, Jean Chrysostome, Augustin, parmi les pères qu'il faut lire. Mais ce n'est pas seulement cela. Et l'un des la réforme n'est pas du tout ce que des gens imaginent qu'elle a été. Il y a des gens qui s'imaginent qu'à la réforme, on a tracé une croix sur l'Église jusqu'au XVIe siècle, et puis qu'on aurait commencé l'Église, comme si entre le temps apostolique et le XVIe siècle, il y avait un grand trou noir. Or, une œuvre qui montre bien que ce n'est pas ça du tout, c'est l'œuvre même de Jean Calvin, l'institution chrétienne qui est son œuvre majeure. Regardez, à la fin du troisième volume de l'institution chrétienne, dans l'édition que nous avons faite à Aix, et regardez, à la fin du troisième volume, les références aux pères de l'Église et aux docteurs du Moyen-Âge. Vous en serez stupéfait. On peut dire que l'institution chrétienne, elle est bourrée de citations des pères de l'Église et des grands docteurs du Moyen-Âge. Parce que pour Calvin, l'Église devait être reformée parce qu'elle avait été déformée, mais c'était l'Église, la même Église qui continuait avec des erreurs, avec des hérésies, avec des éloignements de la parole de Dieu, tout ce qu'on voudra. Mais c'est l'Église, la Sainte Église universelle a commencé avec la Pentecôte et elle ne s'achèvera qu'à la fin du monde. Et c'est la Sainte Église universelle. Et il ne faut pas dire, comme on le dit quelquefois, que c'est une Église invisible. Non, et la preuve que ce n'est pas une Église invisible, c'est que Jules-Marcel Nicole a pu en écrire l'histoire, avec des pages sombres, avec des pages montrant les erreurs dans lesquelles les chrétiens étaient parfois tombés. Mais c'est quand même la même Église qui continue à travers les siècles. Alors j'attire votre attention là-dessus, parce que c'est très important que nous sachions, nous évangéliques du XXe siècle, de la fin du XXe siècle, et vous serez même aussi les évangéliques du XXIe siècle, ou comment, tout au moins du commencement du XXIe siècle. Donc, eh bien, nous devons recueillir dans l'héritage et dans notre mémoire tout ce qui, dans l'enseignement des pères et des docteurs de l'Église d'autrefois, est fidèle à la parole de Dieu. Ah, bien sûr, attention. De même que nous ne faisons pas honorer nos pères et nos mères en disant « Amen » à tout ce qu'ils ont fait et à tout ce qu'ils ont dit, nous ne pouvons pas non plus lire les pères de l'Église ancienne et les grands théologiens du Moyen-Âge et de la Réforme en disant « Amen » à tout ce qu'ils ont fait et écrit. Alors, c'est sûr. Autrement dit, quand on lit un père de l'Église, on doit le lire avec discernement. Mais je dirais que c'est exactement la même chose par rapport à moi. Je suis votre professeur pour quelques jours, vous m'écoutez. Ça ne veut pas dire que vous devez là prendre tout ce que je dis comme argent comptant. Vous devez toujours avoir et garder un esprit critique. Mais, attention, en même temps, vous devez quand même accorder du poids à l'enseignement que vous recevez. Alors, il faut à la fois accorder du poids aux pères et mères, et accorder du poids aux pères de l'Église. Ça veut dire qu'il ne faut pas les traiter comme quantité négligeable, il faut les honorer. Mais ça ne veut pas dire les suivre en tout. Et ce qu'ils ont dit, il faut voir à la lumière de la parole de Dieu ce qui dans leur enseignement est bien et ce qui dans leur enseignement est erroné. Et puis le faire avec une certaine modestie. Parce que voyez-vous, nous-mêmes, je veux dire nous, vous et moi, en 1985, est-ce que nous aussi, nous sommes vraiment toujours bien d'aplomb sur la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes tellement sûrs de... Bon, nous parlons des erreurs de ceux d'autrefois, mais vous savez que nos fils ou nos petits-fils, ou dans un siècle ou deux siècles, ils parleront de nos erreurs à nous. Parce que nous cherchons à être fidèles, à ne pas commettre d'erreurs. Mais il y a des pères de l'Église qui ont cherché à ne pas commettre d'erreurs. Mais on peut très bien, tout en cherchant à ne pas commettre d'erreurs, on peut quand même en commettre. Vous voyez, donc il faut faire très attention. Ce commandement va très loin. C'est un commandement qui est très important aussi pour l'Église. Et comme l'Église est traitée dans la Sainte Écriture comme une famille, eh bien, de même que dans une famille, on doit honorer les pères et mères, dans l'Église, on doit honorer les pères et mères, mais on doit les honorer en ayant toujours une attitude attentive. Maintenant, dernier petit paragraphe. Et puis je m'arrêterai. Aujourd'hui, il y a une attaque virulente menée contre la famille. Il faut que vous en ayez conscience. Il n'est pas facile aujourd'hui de mener à bien la vie d'un couple et la vie d'une famille, non seulement parce que les êtres humains sont des pécheurs, ça ils l'ont toujours été, ils le sont aujourd'hui comme avant-hier et hier, mais en plus, toutes les forces de la religion humaniste présente, c'est-à-dire la religion où c'est l'homme qui est un dieu pour l'homme, toutes les forces de l'humanisme vont contre la famille. Et là, il y a deux hommes qui ont joué un rôle terrible. D'abord, il y a le compagnon de Karl Marx qui s'appelait Friedrich Engels. Friedrich Engels. Friedrich Engels a écrit un livre, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Le titre est un peu long, L'origine de la famille, de la propriété privée et de l'État. Et ce livre, vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que, par exemple, le manifeste du Parti communiste qui a été publié par Karl Marx était signé de Karl Marx et de Friedrich Engels. Bon. Et le livre de Engels, dont je vous cite le titre, hein, a beaucoup influencé toute la politique qui a été menée, par exemple, en URSS, par Lénine d'abord, puis par Staline ensuite, et puis qui a continué depuis. C'est-à-dire, pour Engels, ça se tient. La famille, la propriété privée et l'État, ce sont des réalités qui se tiennent et il faut balayer ces réalités. D'ailleurs, curieusement, la propriété privée a été en grande partie confisquée, c'est vrai, mais par exemple l'État, au lieu d'être balayé, a été renforcé jusqu'à être un État totalitaire. Et ce qui montre, c'est qu'il ne doit pas y avoir ce blocage vu par Engels entre famille, propriété privée et État. Puisqu'on a pu lutter contre la famille, plus ou moins supprimer la propriété privée, mais que l'État, loin d'être du même coup balayé, s'en est trouvé renforcé. Bon, donc ça prouve que de toute façon la thèse fondamentale de Engels n'a pas de valeur. Mais ce qui est grave, c'est ce qui est dit contre la famille dans ce livre. L'idéal d'un État totalitaire, d'ailleurs Hitler, avec le national-socialisme, avait fait des choses analogues, et avec toutes les découvertes récentes en biologie et la folie de tout ce qu'on fabrique avec les ensemencements artificiels et tout ça, eh ben, l'idéal, ce serait de fabriquer des enfants en éprouvette, de confier ensuite les enfants à des crèches et à des organismes de l'État, et il n'y aurait plus, en réalité, de père et de mère, et il n'y aurait plus de famille. Il n'y aurait plus de père et de mère, pourquoi? Parce que, pour le moment, on prend du sperme masculin pour l'introduire dans un corps féminin, et finalement c'est dans un corps féminin que l'enfant se développe. Mais les recherches biologiques actuelles peuvent amener à se passer aussi du développement du fœtus dans le corps de la femme. Et on aura un développement du fœtus en éprouvette et ensuite en, comment on appelle ça, sous cloche, là on met les prématurés, et sous couveuse, oui, tout ça, incubateur, c'est ça et tout. Et on pourra ne plus avoir de famille, etc. Et on pourra même se fabriquer en sélectionnant les données biogénétique, fabriquer des esclaves, fabriquer des robots qui seront humains, mais nous allons vers quelque chose, ou nous pouvons aller plutôt vers quelque chose d'effroyable. Alors, Engels est en partie le responsable, un des responsables de tout ce qui s'est mené contre la famille depuis un certain nombre d'années. Mais il y a un autre homme qui a contribué à faire un mal fou, j'en ai déjà parlé pour autre chose, c'est Sigmund Freud. Sigmund Freud, je vous écris son nom au cas. Alors, il a écrit un livre, lui, qui s'appelle Totem et Tabou. Totem et Tabou. Alors là, je n'ai pas le temps de vous développer toute la théorie de Freud, mais vous savez que Freud voit trois grands tabous dans l'histoire de l'humanité: le parricide, c'est-à-dire le meurtre du père, le cannibalisme, c'est-à-dire la mendication de l'homme par l'homme, et l'inceste, c'est-à-dire le rapport, par exemple, entre une mère et son fils, ou entre un père et sa fille. Alors pour lui, ce sont les trois grands tabous qui sont le parricide, le cannibalisme et l'inceste. Et alors, il a créé un mythe, qu'il a développé sous le nom de complexe d'Édipe, et dans ce mythe, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que le père possède, a pour lui, la mère. La mère. Et les fils grandissent. Pour leur père, selon Freud, les fils ont à la fois envie et crainte. C'est lui qui a la mère, c'est lui qui couche avec la mère, c'est lui qui possède la mère. Chez les fils, il y a à la fois l'envie de ce qu'a le père et qu'ils n'ont pas, et puis la crainte du père, parce qu'il est, tout au moins au départ, le plus fort. Et puis finalement, les fils se révoltent, tuent le père, mange le père et couche avec la mère. Bon, alors vous avez là le parricide, le cannibalisme et l'inceste. Ce qui est, à mes yeux, certain, mais là il faudrait pousser une étude, c'est que le père de Freud, avait perdu sa première femme et avait épousé une jeune femme, une femme beaucoup plus jeune que lui. Et il se peut, d'aucuns ont formulé cette hypothèse, qu'en réalité, Freud, lui-même, Sigmund Freud, s'est trouvé avec une belle-mère qui était beaucoup plus de sa génération que de la génération de son père. Et on peut supposer que même si Freud n'en a pas eu conscience, lui-même a effectivement éprouvé à la fois la crainte pour son père et l'envie d'avoir la jeune femme que son père avait. Qui n'était pas sa mère, qui était sa belle-mère, mais voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que Totem et Tabou est un livre qui a encouragé finalement les menées, les attaques contre la famille, et je pense que ces deux œuvres, dont l'œuvre de Engels sur l'origine de la famille, de la propriété de l'État, et l'œuvre de Freud, Totem et Tabou, sont des œuvres qui ont joué un rôle. C'est pour ça que ce sont des œuvres, à mon sens, à lire. Ce sont des œuvres à lire, parce qu'il y a des œuvres, de même qu'il faut avoir lu le manifeste du Parti communiste, publié conjointement par Marx et par Engels. Parce que si l'on lit un certain nombre d'œuvres comme ça, qu'on peut comprendre ce qui se passe dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains. Parce que, comme je vous le disais, n'est-ce pas, nous avons Paul avait dit, il parlait des princes ou des puissances de l'air. Bon, alors, si vous voulez, on peut dire, il y a dans l'air que nous respirons, il y a des puissances idéologiques ou idolâtriques, et nous respirons l'air de notre temps, même en étant chrétien, et nous devons en prendre conscience afin de pouvoir nous désengager par rapport à ces puissances. Si vous voulez, il y a un texte que je vous ai déjà cité, mais qui est important, lorsque Paul, au début du chapitre 12 des Romains, dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. » Donc je crois que un des moyens, en tout cas pour les pasteurs, de discerner, c'est de connaître les clés ou les racines ou les sources, comme vous voudrez, qui permettent de comprendre ce qu'il y a dans l'air du temps. Alors je dis que parmi les livres qui permettent de se rendre compte de ça, il y a le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, il y a le livre de Engels dont je vous ai parlé, il y a le livre de Freud dont je vous ai parlé. Alors ce sont des livres qu'il faut connaître. Mon hôte Gilles a lu récemment un livre que je n'ai pas lu moi, mais que j'ai quand même feuilleté un jour, sur la famille. Vous ne pouvez pas savoir, d'une manière habile, insidieuse, il y a une attaque menée contre la famille incroyable. N'est-ce pas, Gilles?
Oui.
Voilà. Mais je dirais, c'est bon qu'on ait recommandé à Gilles, c'est ça, son professeur de... Son professeur d'éducation chrétienne qui lui a demandé de lire ce livre. C'est très éclairant de lire certains livres parce qu'on comprend mieux les choses. Hein? Alors, on a ensuite, à condition d'avoir su discerner, on a une intelligence renouvelée parce qu'à la lumière et sous la norme de la parole de Dieu, on voit où est le danger, on voit ce qui est pernicieux dans un enseignement. Hein? Alors, j'ai terminé. Je vous simplement vous montre que l'exemple même de celui qui a honoré son père et sa mère, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et il ne faut pas que nous oublions qu'une des dernières paroles de Jésus, alors qu'il mourait sur la croix, ça a été, parce qu'il en avait le souci, sa mère était veuve, il y a bien longtemps que Joseph était mort, et bien Marie a été confiée par Jésus à Jean. Il fallait maintenant que Marie soit comme une mère pour Jean, et il fallait surtout que Jean soit comme un fils pour Marie. Et maintenant que Jésus mourait, eh bien Jésus a honoré sa mère en la confiant aux disciples bien-aimés. Alors, nous avons un quart d'heure, hein? Il est moins le quart, ça tombe bien. Alors, on aura des questions seulement à la fin de...